enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bien, ce soir, j'aimerais continuer un thème que j'ai abordé plusieurs dimanches de suite. C'est le prix de l'autorité et ce sera la quatrième partie ce soir. Chaque partie se complète en elle-même, mais fait chaque fois suite à la suivante. Alors, si vous désirez les trois premières parties, elles sont à votre disposition à la librairie. Ce soir, je traiterai plus particulièrement l'autorité dans la prière. Prier avec autorité, est-ce possible? Jésus dit dans Luc chapitre 6 verset 40, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous êtes appelés à devenir comme Jésus. Est-ce que c'est pas un merveilleux programme? Ressemblez à Jésus, regardez voir votre voisin et dites-vous un jour, il ressemblera à Jésus. J'espère que les sourires ne sont pas des sourires d'incrédulité, hein, mais que c'est simplement de la joie que vous éprouvez au vu de ce qui est à venir. Dans les trois premières parties de ce thème, nous avons vu que le disciple n'est pas plus grand, mais qu'il est appelé à devenir comme son maître. J'aimerais vous rappeler que si le disciple pouvait avoir l'autorité du maître sans passer par le chemin que le maître nous a tracé, ça signifierait tout d'un coup que le disciple à quelque part est plus grand que son maître. Nous ne pouvons pas nous faire l'économie du chemin que Jésus nous a tracé. Si nous voulons voir la gloire de Dieu comme elle se manifestait dans la vie de Jésus, alors nous devons suivre le même chemin. Ce soir, et c'est mon premier point, j'aimerais examiner avec vous l'autorité de la vie de prière de Jésus. Lorsque je considère Jésus, lorsque je considère sa vie de prière, lorsque je regarde avec quelle puissance il priait pour les malades, les guérissait, lorsque je regarde et je vois l'autorité qu'il avait sur les démons lorsqu'il priait, lorsque je regarde l'autorité qu'il avait même sur les éléments naturels, lorsque pris dans la tempête, ses disciples affolés crieront « Seigneur, Seigneur, nous périssons !» Et elle s'adressera au vent et à la mer, et il dira « Vent, tais-toi, et toi, mer, calme-toi !» Et aussitôt, le calme vint. Je me dis « Mais Seigneur, quelle autorité était la tienne ?» Marthe, la sœur de Lazare, pour vous qui êtes là pour la première fois, eh bien, tout d'abord, soyez les bienvenus, mais peut-être que vous ne situez pas tout à fait ce Lazare. Eh bien, Lazare était celui que Jésus allait ressusciter. Un proche de Jésus, souvent avec Jésus. Cet homme venait de décéder. Les sœurs de Lazare avaient appelé Jésus, mais il n'arrivera que 4 jours plus tard. Mais voilà ce que dit Marthe. Elle regarde Jésus et elle lui dit, « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Waouh ! « Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Moi, je souhaiterais un jour que vos voisins, vos voisines viennent vous voir en vous disant, « Je sais, monsieur Doc Villers, que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. » Je sais, monsieur Rittmüller, que tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Je souhaiterais que dans les magasins, ceux qui vous connaissent vous croisent et vous disent, je sais, madame Corinne, que tout ce que vous demanderez à Dieu, il l'exaucera. Tout le monde devrait être debout sur sa chaise en disant, oui, c'est ce que je veux. Bon, c'est mardi soir, je vous pardonne, vous êtes fatigué. Elle savait que quand Jésus s'adresse à Dieu, Dieu lui répond. Jésus lui-même dit la chose suivante dans Jean 11 au verset 41-42. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Il dit cela. Attendez, ça sentait le cadavre et ça faisait 4 jours qu'il était derrière une pierre. Rien n'avait encore bougé. Pourtant, Jésus déclare « Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Dans l'immédiat, il n'y avait encore aucun exaucement. Lazare était dans sa tombe et rien n'avait bougé. Mais l'autorité que Jésus avait dans la prière était telle qu'il savait avant même qu'il ait prié que déjà il était exaucé. Et ensuite il dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Toujours. Bien-aimé, lorsque je regarde ces textes, je me dis, mais quelle assurance, mais quelle autorité. Je suis admiratif devant cette assurance. Je suis admiratif devant cette autorité. Et parfois, elle nous semble hors de portée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment. Au-dedans, au fond de nous-mêmes, on se dit, bon, c'est sympa, mais finalement, c'est Jésus. C'est Jésus, c'était quand même le Fils de Dieu. Pourtant, rappelons-nous ce que Jésus a dit, Jean 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il fera? Il fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Waouh! Alors, ou la Bible dit la vérité, ou alors c'est moi qui me trompe. Mais Jésus est en train de nous dire, les œuvres que j'ai faites sont à votre portée. Hello? Et vous en ferez de plus grandes. Celui qui est là pour la première fois se dit ce soir, il est fou celui-là, il se prend pour Jésus. Non, non, je ne suis pas fou. Je ne me prends pas pour Jésus, mais je sais que Jésus, lui, a veillé à ce qu'après lui, eh bien, son autorité soit déléguée à des hommes et des femmes qui porteront ce merveilleux message de la bonne nouvelle, afin que ce message soit accompagné par des signes surnaturels. Cet après-midi, une dame m'appelle de la région de Marseille. Elle me dit, je voulais vous remercier. Vous étiez dans telle ville, j'étais malade, j'étais couché depuis 6 mois. Et quelque chose me disait, il faut que t'ailles à cette réunion, il faut que t'ailles. Nous avons fait le déplacement, c'était environ 80 kilomètres. Nous sommes venus, vous avez prié, et ce même jour-là, j'étais guéri, plus jamais j'étais couché. C'est pas nous, mais c'est Christ en nous qui manifeste sa gloire. Je sais que tu m'exauces toujours, dira Jésus. Cependant, il me semble que nous, au contraire, trop souvent nous prions. Et peu de choses se passent, voire rien ne se passe. Mais on s'y est habitué, hein? Donc finalement, on s'est tellement habitué à prier sans que rien ne se passe que je... Bon, c'était toujours comme ça. Vous savez, ça me fait penser un peu à ce type qui chaque matin monte dans sa voiture en sachant d'avance que de toute manière elle va pas démarrer et qu'il va faire le voyage à pied. Hein? Mais chaque matin, il va monter dedans. Il sait déjà en avance, ça marche pas. Ça fait rien, je monte quand même dedans. Écoutez, si chaque matin vous montiez dans votre véhicule sans que le véhicule se mette en marche, est-ce que vous répéteriez l'opération tous les jours? Certains disent non, mais d'autres, apparemment, oui. Répéteriez-vous l'opération chaque jour? Non, attendez, moi, elle marche pas. Un matin, je me dis, il y a un problème. Il y a une raison à cette panne. Cette voiture n'a pas été fabriquée pour être en stationnement, mais pour me permettre de me déplacer. Je vais donc m'inquiéter de la situation. Je vais me mettre en route, en marche. Je vais chercher pourquoi ça ne fonctionne pas. Cependant, quand il s'agit de la prière, notre réaction n'est souvent pas à la hauteur du problème. En réponse à nos prières non exaucées, nous disons, vous comprenez, moi je suis pas Jésus, hein. Oui, mais il y a un problème, c'est qu'il a dit, nous ferons les œuvres qu'il a faites. Puis d'autres me diront, oh, ils se consolent, quelque part ils vont se consoler, en se disant, oh, c'était pas la volonté de Dieu. Vous passez votre vie comme ça, hein. Est-ce que vous êtes réellement sûr que c'était pas la volonté de Dieu? Ou est-ce que c'était la volonté de Dieu et vous n'aviez pas l'autorité pour que les choses changent? Ça fait réfléchir. D'autres diront simplement, ben, j'ai prié, ça n'a pas marché, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Cela, il résume tout très vite, très rapidement. C'est la preuve qu'il n'existe pas. Cependant, il y a une dernière catégorie, et j'espère qu'elle est présente ce soir, parce que c'est à celle-là que je m'adresse, qui se dit, je ne peux pas me contenter d'une vie de prière sans réponse. Si je suis capable de me demander pourquoi ça marche pas avec la voiture, alors je veux de tout mon cœur chercher et comprendre pourquoi ça marche pas au niveau de la prière. Je vais pas passer 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à prier pour voir un exaucement tous les 15 ans et m'en réjouir pour les 15 ans à suivre. Je veux, Seigneur, connaître cette plénitude dans la prière où, eh bien, tout d'un coup, le disciple devient semblable au maître. Seigneur, je désire cela. Je le désire de tout mon cœur. Lorsque nous étions au Sénégal, ça me restera toute ma vie. Les premières évangélisations que nous avions faites là-bas, mon frère Claude et Martine Schmerber étaient avec moi, mon frère Schneubelin était avec moi. Il y avait tellement de guérisons qu'à 8h le matin, quand je sortais de la maison, il y avait déjà une file de gens qui attendaient devant la porte pour qu'on prie pour eux, parce que le bruit circulait partout, qu'il était en train de se passer des choses exceptionnelles. Mais moi, je crois pas seulement à ces choses-là pour le Sénégal ou l'Afrique, je crois à cela pour l'Europe. Et je crois à cela pour les cartésiens français. Je crois à cela pour nous ici en tant qu'Église. Mes amis, des hommes et des femmes qui veulent faire bouger les choses. Alors, permettez-moi en quelques instants d'examiner l'origine ou un aspect. Ce n'est qu'un aspect. Ce n'est qu'un aspect de l'origine de l'autorité de la prière que faisait Jésus. C'est mon deuxième point. Pourquoi Jésus avait-il une telle autorité dans la prière? Pourquoi? Voilà une réponse. Nous allons la trouver dans la bouche d'un aveugle né qui a été miraculeusement guéri par le Seigneur. Je ne vais pas lire tout le texte, vous pourriez lire Jean chapitre 9. Lisez-le à la maison, prenez le temps de le lire. On pourrait prêcher 20, 30, 40 messages sur ce texte-là. Mais ce soir, je voudrais simplement le résumer. En particulier pour les personnes qui sont là pour la première fois, pour les téléspectateurs qui ne savent pas situer cette scène. Dans Jean 9, je lis le verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il continue. Verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Qu'est-ce que vous diriez ce soir si je crachais par terre et je vous mettais ce qu'il y a par terre dans les yeux? Moi je me dis, c'est qu'à un aveugle qu'on pouvait faire ça, hein? Il y a qu'à un aveugle qu'on pouvait faire ça. Et voilà ce que Jésus lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, sinon, ce nom signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Un peu plus loin, verset 13, ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Et maintenant, vient l'élément de réponse dont nous avons besoin. C'est l'aveugle qui interpelle les pharisiens. Au verset 31, il dit, « Nous savons, écoutez bien, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est clair, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si Jésus avait l'autorité dans la prière qu'il manifestait, c'est parce que Jésus, lui, malgré le fait qu'il fut tenté en toute chose, n'a jamais péché. Et Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple, en d'autres mots, qui lui ressemble, deviendra comme son maître. Dans 1 Pierre 2, 21-23, il est dit, « C'est à cela que vous avez été appelés par Christ, car Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, lui qui outragé, ne rendait pas l'outrage, qui maltraitait, ne faisait pas le mal, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et un peu, un autre texte dans 1 Jean 3, versets 5 et 6. « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. » Hello. L'autorité de Jésus découlait directement pour la prière de sa sainteté. Il n'y avait en lui aucun péché. Voyez-vous, lorsque vous avez un tuyau, et les tuyaux en plomb, c'était particulier dans le passé, eh bien, s'accumulait dans le tuyau du calcaire. Et fur et à mesure que le calcaire s'accumulait, le débit diminuait. Eh bien, permettez-moi d'utiliser cela comme une image. Le péché dans nos vies est comme le calcaire dans le tuyau. Plus il y a de calcaire, moins l'eau peut passer. Jusqu'à ce que certains tuyaux étaient totalement fermés. Mes amis, le problème, c'est que j'ai l'impression que nous, on termine pas avec le calcaire, on commence avec le calcaire. Et Dieu se propose de libérer le tuyau de manière à ce que vous et moi, quand nous prions, nous puissions voir la gloire de Dieu s'accomplir. L'autorité de Christ venait de cette vie sans péché et il nous dit de devenir semblable à lui. Troisième point, le péché nous prive de l'autorité. Que dit l'aveugle ? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons, c'est une certitude. Ah, il le dit avec assurance, il s'adresse aux pharisiens, il leur dit, mais nous savons. Ça, on est très clair là-dessus. Il y a cause à effet. Péché, non-exaucement. Vous savez, les gens se disent, moi je peux prier n'importe comment, Dieu doit me répondre, absolument pas. Absolument pas. Si vous vivez dans le péché, ne vous étonnez pas que Dieu ne vous réponde pas. Dieu ne peut pas vous répondre dans cette situation-là. Vous n'avez aucune autorité. Reprenons l'image de la voiture. C'est comme si l'aveugle nous disait ce soir, sans essence, pas de véhicule qui fonctionne. sans essence ou sans gasoil. Pas de voiture qu'ils aient place. Imaginez l'homme qui monte dans sa voiture. Il n'a pas d'essence. Il n'avance pas. Rien ne se passe. Mais il se met en colère contre le constructeur et le créateur de la voiture. En disant, c'est quand même pas possible. Avec tout ce que j'ai dépensé, tous les efforts, cette bagnole, elle ne marche pas. Si vous aviez un voisin, tel que celui que je viens de décrire, et que vous le regardiez, invectiver Monsieur Peugeot, par exemple. Tant qu'à faire de la pub, autant en faire de la pub pour une marque française. Hein. Et vous l'entendez dire, si je tenais Peugeot entre mes mains, il m'entendrait celui-là. Je lui en ferai voir. Vous, vous savez qu'il n'a pas d'essence dans sa voiture. Qu'est-ce que vous feriez? Vous iriez chez le voisin et vous lui diriez, mais arrêtez d'en vouloir à Monsieur Peugeot. C'est pas de sa faute, monsieur. Il vous faut mettre de l'essence dans la voiture. Si vous mettez de l'essence, ça fonctionnera. Si vous n'en mettez pas, ça ne fonctionnera jamais. Et vous pouvez en vouloir à tous les constructeurs du monde. Mes amis, ce soir, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et pourtant, nous prions comme si Dieu devait nous exaucer, alors que nous savons que nous sommes dans le péché. Nous sommes aussi insensés, bien souvent, que le propriétaire de cette voiture, aussi insensé. Nous en voulons à Dieu, nous accusons Dieu. Combien de fois n'ai-je pas entendu des gens qui m'ont dit « Dieu est injuste, j'ai prié, il ne m'a pas répondu ». Mes amis, pas d'essence dans votre véhicule, il n'avancera pas. C'est une condition sine qua non pour qu'il avance, votre véhicule. Du péché dans votre vie, entretenu par-dessus, cela, pas de réponse. Alors plutôt que d'en vouloir à Dieu, plutôt que de commencer à élever le poing, remettez-vous en question. Cherchez à faire le chemin inverse. Que faut-il que je fasse pour que ça change? Que faut-il que je fasse pour que ça change? Le prophète Ésaïe dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Le problème n'est pas chez lui. Hello? Le problème est chez nous. Dis à ton voisin, le problème il est chez toi. Et si chacun le dit à l'autre, chacun comprendra où ça se passe. Dominique, le problème est chez toi. Oui, mais t'as le droit de me dire qu'il est chez moi aussi. Ah, tu l'as déjà dit avant même que je l'ai... Ah. Non, non, le problème n'est pas chez Dieu. Le problème est chez nous. Nous n'avons pas d'autorité. Imaginez un policier que l'on surprend en pleine corruption. Il est destitué de sa fonction et de son autorité. Il n'en a plus. Pourquoi? Parce que les lois qu'il était censé faire respecter, il les a lui-même enfreints. Imaginez que son uniforme soit son intégrité, d'accord? Quand un policier est dans son uniforme, il a quand même une drôle d'autorité, vous trouvez pas? Il peut se mettre au bord de l'autoroute, faire comme ça aux 38 tonnes, et le 38 tonnes s'arrête. Pourquoi? Parce que derrière le costume de policier, il y a tout l'État français. Il y a toute l'autorité française, il y a toute la justice française. Il peut être épais comme une épingle, avoir la forme d'une arbalète, il lève la main et ça suffit. Maintenant, prenez le même policier, mettez-le en maillot de bain sur l'autoroute et dites-lui de faire comme ça devant le 38 tonnes. Il sera atomisé dans les secondes qui suivent. Le péché est ce qui nous enlève notre autorité. Et là, nous avons beau venir et dire, au nom de Jésus, nous allons nous faire rosser comme les sept fils de Séba. Vous savez ce que ces hommes ont fait? Ils voulaient délivrer un possédé. Ils vont pour prier pour lui. Ils lui disent, au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons dirent, on connaît Paul, on sait qui est Jésus, vous qui êtes vous, et ra. une raclée grave. Le péché vous dépouille de votre autorité. Mes amis, le péché vous enlève l'autorité que Dieu a voulu et veut encore aujourd'hui vous donner. Pourquoi ? Et c'est mon quatrième point. Pourquoi Dieu ne peut-il pas exaucer les pécheurs ? Permettez-moi d'abord de vous donner une définition du péché selon la Bible. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Tous ceux qui commettent des péchés luttent contre Dieu. C'est la version parole de vie. En effet, commettre des péchés, c'est lutter contre Dieu. Tous ceux qui commettent des péchés luttent contre Dieu. En effet, lutter contre Dieu, c'est la définition du péché. Dieu ne peut pas exaucer. Ésaïe dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Mes amis, ce soir, je prêche là le béaba de l'Évangile. Pour certains, peut-être c'est nouveau. Mais il me semble que trop souvent, nous nous entêtons à continuer à prier comme si Dieu devait nous exaucer. Pourquoi Dieu ne peut pas le faire? Écoutez ce qui est dit dans 1 Jean 3. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui ne pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean qui le dit dans son épître. Dieu ne peut pas. Ésaïe serait là ce soir, il crierait à chacun d'entre nous, mais non, Dieu n'est pas sourd. Mais non, la main de Dieu n'est pas trop courte. Mais oui, il veut t'exaucer. Mais toi, par ta vie, par ce que tu fais, tu ériges toi-même un mur entre lui. Et je m'adresse là à des croyants qui depuis des années sont assis dans leur voiture qui n'a pas d'essence et qui tous les matins retournent dedans et ils savent d'avance qu'ils vont faire le voyage à pied. Dieu va vous résister. Écoutez, si vous étiez le voisin de celui qui a cette fameuse voiture, Georges, toi qui es grand mécano devant l'Éternel, qu'est-ce que tu ferais? Après lui avoir expliqué qu'il faut mettre de l'essence dans le réservoir, après lui avoir dit tout ce qu'il faut faire pour qu'elle démarre, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu lui dirais tout d'un coup, bah finalement je vous comprends. Bah oui. Oui, je vous comprends. Écoutez, mettez-vous au point mort. Moi, je vais vous pousser la voiture jusqu'au lieu de travail. Non, franchement, est-ce que tu ferais ça? Tu lui donnes la solution et après, tu attends qu'il soit fatigué de ses bêtises. Et une fois qu'il est fatigué de ses bêtises et qu'il vient chez toi en disant, mais s'il vous plaît, monsieur Georges, montrez-moi comment faire. Tu lui montres où il faut mettre l'essence. Tu lui dis tout ce qu'il faut faire pour la faire marcher. Ceci de manière à ce qu'il devienne autonome. Mes amis, Dieu ne vous répondra pas jusqu'à ce que vous ayez compris, il faut que je change. Dieu a le temps. Vous saviez que Dieu a le temps? En lui, il n'y a ni commencement ni fin, il a le temps. Nous, on n'a pas autant de temps que lui, hein. Lui a le temps. Ce soir, vous pouvez changer votre impact dans la prière en prenant conscience de l'impact du péché sur votre vie. Maintenant, et c'est mon cinquième point, j'en ai six et j'ai terminé. J'aimerais vous donner en cinquième point quelques bonnes raisons d'abandonner le péché. C'est souvent, vous savez, souvent quand on parle du péché, abandonner le péché, les gens se disent, il suffit encore de revêtir un sac de pommes de terre et des sandales, et puis voilà, ça se limitera à ça, notre vie. Non, non, j'aimerais vous dire que vivre sans péché, c'est vivre une vie libre. C'est vivre une vie heureuse. Les gens qui vivent sans péché sont pas des gens austères. C'est pas des gens qui sont complètement fossilisés. Vous savez, très souvent, quand on parle, quand on dit aux gens, tu es saint. Oh non, non, arrête. L'autre jour, j'arrive dans les toilettes. Oui, je suis souvent dans les toilettes. Oui, c'est vrai. J'arrive dans les toilettes et je vois une chère sœur qui nettoie les toilettes. Je lui dis, bonjour, ma sainte sœur. Elle me dit, oh non, pas tant que ça. Hein. Non, pas, quand même, pourquoi? Pourquoi réagit-elle comme ça? Parce que nous, l'image que nous avons des saints, les saints qu'on connaît, ils sont toujours morts, ils sont en cailloux. Hein? Mais c'est les seuls qu'on connaît. Ils sont tous en cailloux. Ils sont morts. Et en plus de ça, il a fallu attendre des années pour dire qu'ils étaient saints. Alors on se dit tous, d'abord tu dois bien mourir. Et puis les asticots, ils doivent bien tout manger. Et après tu seras un saint homme. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, je suis saint, dit le Seigneur, et vous devez être saint. Serre la main à ton voisin, dis-lui, mon saint frère ou ma sainte sœur. Vas-y, vas-y, fais-le. C'est une réalité, je suis pas en train de dérailler, je vous dis ce que la Bible dit. Heiliger Hans-Peter. Ja, ja. So ist es auch. N'est-ce pas que ça nous fait tout drôle? Hein, on n'a pas l'habitude. Mais écoutez, allez les maris qui sont ici, si demain en vous levant, vous embrassiez votre épouse en disant « Oh ma sainte !» Croyez pas qu'elle serait surprise? Vous croyez qu'elle pourrait encore s'énerver contre vous parce que vous n'avez pas rangé les chaussures? Elle peut plus! Puisque vous avez déclaré qu'elle est sainte, donc elle peut plus s'énerver, vous l'avez coincée! Mais c'est une excellente stratégie. Non, j'aimerais vous dire de bonnes raisons de ne plus pécher. D'abord, la Bible dit, car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de sa gloire. Moi, j'ai pas envie d'être privé de sa gloire. Moi, je veux voir sa gloire. Et puis, le péché vous fait souffrir. Il vous coûte cher émotionnellement, sentimentalement, physiquement et financièrement. Si des hommes politiques regardent cette émission, moi je voudrais qu'un jour en France, on évalue en chiffres le coût du péché. Et vous vous rendriez compte que la société française paye très cher le péché. Laissez-moi prendre quelques exemples. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les péchés qui existent. Parce que je n'ai pas l'impression de les avoir encore tous rencontrés. Mais quelques-uns que tout le monde connaît comme ça. Par exemple, les menteurs. Bon, il n'y en a pas ici. Mais c'est juste pour que vous puissiez passer l'information à ceux qui sont concernés. Vous savez que médicalement, des études ont été faites. Et on a constaté que les menteurs souffraient souvent d'ulcères d'estomac. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps stressés, ils savent plus ce qu'ils ont raconté, à qui ils l'ont raconté, comment ils l'ont raconté. Ah ouais? Il y a là directement entre le péché et la condition physique une relation directe. Bon, n'allez pas soupçonner tous ceux qui ont mal à l'estomac d'être des menteurs, hein. Si demain votre mari à table dit « Oh, j'ai mal à l'estomac », dire « Ah !» Non, ne dites pas ce que j'ai pas dit, mais... Simplement, je prends l'adultère, mes amis. Si nous pouvions calculer le prix que coûte l'adultère, la France commencer à se battre contre cela. Le nombre de suicides suite à des adultères. Vous savez, on se bat pour qu'il y ait moins de morts sur les routes. Si seulement on se battait pour qu'il y ait moins de suicides à cause de l'adultère. Encore ce matin, un homme a tué ses deux enfants et s'est suicidé parce que sa femme l'a quitté. L'autre jour, je passe devant une maison, elle était brûlée. Je dis, tiens, la maison a brûlé. Oui, la femme a quitté son mari. De désespoir, le mari a allumé la maison. Il y a une relation directe. Il y a une relation directe. Si on devait calculer le nombre d'enfants complètement déstabilisés, si on devait calculer le coût quant à la délinquance que ça a engendré et aux conséquences, nous serions surpris. Au nombre de dépressifs qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, nous serions surpris. Non, non, je vous assure, quand Jésus dit « quitte le péché », c'est parce qu'il veut votre bien. Il veut que votre bien. Un mode de vie malsain, boire de trop, fumer de trop. Vous savez que la cause majeure du cancer des poumons et de l'utérus, c'est le tabagisme. On le sait. On continue. Les comportements sexuels déréglés, les multiples partenaires. Avez aujourd'hui, les jeunes ont l'impression que si elles sont, les jeunes filles, si elles sont vierges, ou les jeunes hommes, s'ils sont restés vierges, ils en ont, aujourd'hui, on en a honte. Il y a des années, on en était fiers. Et aujourd'hui, on en a honte. Mais j'aimerais dire à tous les jeunes qui sont là, et qui sont vierges, tu peux être fier. Tu peux être fier parce qu'il faut être plus fort pour rester vierge que pour le reste. Je lisais, alors ça date d'il y a 2 ans quand même, dans le journal Science et Vie, qui connaît Science et Vie, oui, le numéro 1036 de janvier 2004. Il est dit là au sujet du cancer de l'utérus que l'un des facteurs de risque, eh bien ce sont les partenaires multiples. Les partenaires multiples sont l'un des facteurs du cancer de l'utérus, mesdames. Quand Jésus dit « arrête de pécher », il veut également votre bonne santé. Mais il veut surtout vous sauver. Les pratiques sexuelles contre nature, et elles sont aujourd'hui full. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous entendons dans les confessions. Et vous ne le saurez jamais parce que nous ne vous dirons pas ce que nous entendons. Cependant, je vous assure que c'est inimaginable. Tiens, Juste une petite information. Qui a entendu parler de la syphilis? Maladie sexuellement transmissible, bon. Ok, ça date, hein? Rien à voir avec le président égyptien, mais ça fait longtemps. Bien. Écoutez. Quelle est l'origine de cette maladie? Cette maladie, c'est les lamas, des mammifères des régions montagneuses d'Amérique du Sud qui l'avaient. D'accord? À l'arrivée des conquistadors, les conquérants espagnols du Nouveau Monde, n'ayant pas eu de femmes depuis des mois, ils eurent des relations sexuelles avec les animaux et entre autres avec les lamas. Et c'est comme ça que la syphilis a été transmise à l'homme et ramenée en Europe. D'où j'ai l'information du livre Histoire de la médecine. C'est pas pour rien que les lamas nous crachent dessus maintenant. Moi, j'ai jamais compris pourquoi ces animaux nous crachaient dessus. Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais ça m'étonne pas qu'ils nous crachent dessus, hein. Plus proche de nous, il semblerait, selon certaines sources, que le sida ait aussi pu avoir une origine telle que celle-là des relations sexuelles de l'homme avec le singe. Et là encore, le sida s'est transmis dans des milieux très particuliers au départ. encore une fois, à cause du péché, que dit Paul ? De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leur appétit les uns pour les autres. Ils se livrent entre hommes à des actes honteux et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Mes amis, il y a longtemps que Paul avait dit cela. Et nous, aujourd'hui, nous en voyons des conséquences. Et malheureux, des innocents payent le prix fort. Des enfants, des transfusés sanguins, etc. Chers amis, ce soir, eh bien, je voulais et je voudrais vous encourager à quitter votre péché parce que votre péché vous détruit. Je vous assure que quand Jésus nous dit de quitter le péché, c'est pas seulement pour que vous ayez de l'efficacité dans la prière, c'est parce que votre vie est transformée. Vous devenez un homme, une femme libre. Je termine et c'est mon sixième point. Comment avoir alors de l'autorité dans la prière ? Encore une fois, je reviens à la bouche de l'aveugle qui dit « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » Deux choses. Premièrement, abandonner le péché, c'est clair pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, honorer Dieu. La première manière d'honorer Dieu, c'est en reconnaissant que nous sommes pécheurs, en nous détournant de notre péché et en recevant Jésus-Christ dans nos vies. Voulez-vous honorer Dieu ? Alors recevez celui que Dieu lui-même a envoyé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est-à-dire chacun d'entre nous, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La meilleure manière ce soir, par laquelle vous puissiez honorer Dieu, c'est en lui disant, « Oh Dieu, viens dans ma vie, change-la. » Voyez-vous, par vous-même, vous ne pouvez pas vous changer. Le prophète dira, « Un léopard peut-il enlever les taches de sa peau ?» Non, on n'a jamais vu un léopard se gratter les taches. Il peut pas. Pas plus vous ne pouvez vous libérer de votre nature pécheresse. Vous avez besoin d'un libérateur. Et ce libérateur, c'est Jésus-Christ. Lui est venu pour vous libérer du péché. La Bible dit qu'il est mort pour nous, afin que par sa mort soient expiées nos fautes et que par son sang nous soyons purifiés de nos péchés. Et puis, faire sa volonté. Alors comment faire sa volonté ? Vous ne pourrez jamais faire sa volonté sans la connaître. Comment connaître sa volonté ? En commençant à lire sa parole. Parce que dans sa parole s'inscrit sa volonté. Et à fur et à mesure que vous avancez, vous mettrez en pratique ce que vous avez compris. Certains viennent me voir en me disant « Pasteur, mais j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ça !» Mes amis, ce soir, ne vous inquiétez pas pour tout ce que vous n'avez pas compris. Faites-vous plutôt du souci pour tout ce que vous avez compris et que vous ne faites pas encore. David dira « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? » En se dirigeant d'après ta parole. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ma conclusion. Si le péché nous prive de l'autorité dans la prière, honorer Dieu nous en ouvre la voie. Qui voudrait de l'autorité dans la prière ? Qui voudrait arrêter de s'asseoir chaque matin dans sa voiture pour finir le voyage à pied ? Qui voudrait enfin devenir logique ? Qui voudrait avoir le courage de se dire mais c'est vrai, je prie depuis des années, ça bouge pas, il faudrait quand même que moi-même je fasse mon examen de moi-même. Si nous nous humilions et nous repentons, nous verrons sa gloire venir. Pendant que mon frère Bernard vient au piano, écoutez ce qu'il est dit dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Fermons nos yeux un instant. Pendant un instant, ne nous occupons pas de notre voisin, de notre voisine. Ce soir, Dieu s'est adressé à chacun d'entre nous, individuellement. Et c'est à chacun que se pose la question. Veux-tu, d'abord, première question, veux-tu devenir mon disciple ? Veux-tu m'honorer en recevant Jésus mon fils? Veux-tu qu'il vienne te libérer du péché? Tu as déjà essayé tant de fois. Et ce soir, dans cette liste, je n'ai pris que quelques aspects. Et vous savez, j'aurais pu citer la haine, cette haine qui ronge des hommes et des femmes jusqu'à les détruire, la rancune, la vengeance, la jalousie, l'orgueil, toutes ces choses, j'aurais pu les citer au même titre que celles que j'ai invoquées ce soir, parce qu'elles vous détruisent de la même manière, elles me détruisent de la même manière. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut honorer Dieu en lui disant « J'ai besoin de toi, Jésus. Je veux honorer Dieu en te recevant dans ma vie afin que tu me libères. »
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.